Je vous invite à poursuivre notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste. À plusieurs reprises, l'Ecclésiaste invite ses auditeurs et ses lecteurs à jouir des bonnes choses de la vie que le Seigneur donne dans sa grâce tout au long de l'existence. Mais, il semble bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Force est de constater que cette part de bonheur, elle n'est pas donnée à tous. Et l'Ecclésiaste, dans son analyse du monde, dans son réalisme, il ne veut pas passer cette réalité sous silence. Il y a des personnes qui cumulent malheur sur malheur. Il y a des personnes qui vivent découragement sur découragement. Des personnes qui sont bien souvent tellement dans la souffrance qu'elles ne sont même plus en mesure de voir, de saisir et de jouir des petits bonheurs de la vie que Dieu donne dans sa grâce. Nous allons parcourir ce matin tout le chapitre 6, mais en deux temps. Tout d'abord les versets 1 à 6. Et je vous invite à suivre la lecture dans la traduction que vous avez, vous, ou bien sur la traduction qui est affichée ici. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est grand pour l'être humain. Voilà un homme à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui laisse pas la capacité d'en profiter, car c'est un autre homme qui en profitera. Cela aussi est vanité, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il ne se rassasie pas de bonheur et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. Car cet enfant mort-né est né en vain. Il s'en va dans les ténèbres et son souvenir se perd dans les ténèbres. De plus, il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu. Il a donc davantage de repos que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans voir le bonheur? Tous ne vont-ils pas dans un même lieu? Deux situations qui sont évoquées ici. D'abord, dans le verset 1, le verset 2, la situation d'un homme qui a des richesses, mais qui ne peut pas en profiter. La richesse, les biens, les honneurs dans la parole de Dieu sont des signes de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui les donne. Mais l'Ecclésiaste dit en même temps ici que Dieu ne lui laisse pas la capacité d'en profiter. C'est quelqu'un d'autre qui en profitera à sa place. Du temps de cette personne, hein, sous ses yeux, ou peut-être après lui. Alors pourquoi ne pas laisser la capacité à tel ou tel de profiter de ses biens, de ses richesses? Dieu est souverain. Dieu ne veut pas notre mal. Dieu veut au contraire notre bien. Mais alors pourquoi? L'Ecclésiaste ne donne pas de réponse à cette question. Mais il dresse le constat que certains sont privés de ce bonheur, de ces bonheurs-là. Et à la fin du verset 2, de conclure, « Cela aussi est vanité, c'est un mal affligeant. » On peut penser à tant et tant de personnes qui sont emportées par une maladie en pleine force de l'âge. Ou même des enfants qui meurent dès le sein maternel, ou pendant leurs toutes premières années de leur vie. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie, partent à la retraite et sont emportées dans les jours ou les mois qui viennent. Ils ne peuvent même pas profiter du fruit de tout leur labeur, de leur travail. C'est une première situation qu'il évoque ici. Un mal affligeant. Et il continue avec une deuxième situation qu'il présente dans les versets 3 à 6. le cas de personnes qui ont une longue vie et pourtant qui vivent dans le malheur. Une longue vie et une progéniture nombreuse, sans enfants, c'était le signe aussi de bénédiction de Dieu. Mais malgré cela, on peut passer toute une vie dans le malheur. Et chose surprenante, peut-être même choquante, ce que l'Ecclésiaste dit à la fin du verset 3, il est préférable de connaître le sort d'un enfant mort-né que celui d'une longue vie qui est privée de bonheur. Un enfant mort-né, c'est un drame, laissant une tristesse immense. Vivre le deuil d'un enfant que l'on n'a pas pu connaître, c'est quelque chose de terrible. Mais l'Ecclésiaste utilise ce triste exemple pour dire que malgré tout, un enfant mort-né a un sort meilleur qu'un homme qui vit longtemps, mais qui est privé de bonheur. Et il en donne l'explication dans les deux versets qui suivent, versets 4 et 5. Un tel enfant n'a rien connu de ce monde. Il n'a pas connu la condition humaine. Il n'a pas vécu de peine, d'anxiété, de souffrance. Certainement, l'Ecclésiaste a en tête ici l'une ou l'autre des personnes qui l'ont précédé. On peut penser peut-être à Job, qui a tout perdu, famille, richesse, bien, la santé. Et Job se met à maudire le jour de sa naissance. « Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du ventre maternel ? J'aurais péri alors et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme ceux qui n'ont jamais été. J'aurais été porté du sein maternel au tombeau. » Ou encore l'Ecclésiaste peut-être a en tête un certain Jacob qui répond à Pharaon quand Pharaon lui demande « Mais quel âge as-tu ?» Et Jacob de répondre « Le nombre de mes années de migration est de 130. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. » On sent un goût amer dans sa réponse ici. Jacob avait une famille nombreuse, il possédait une certaine richesse quand même, surtout depuis son retour de Haran. Mais malgré cela, et malgré son âge, quand même 130 ans, c'est même malgré tout pas rien, il considère ses années comme peu nombreuses et surtout mauvaises. Des conflits avec son frère Ésaü, avec son oncle Laban. Je ne refais pas l'histoire et je nous invite à revenir à cette série que Pierre nous a, dans laquelle Pierre nous a conduit tous ces derniers mois. Il y a des personnes qui vivent malheur sur malheur, épreuve sur épreuve. Et l'Ecclésiaste, dans le texte que nous méditons, il termine avec le verset 6, par une sorte d'exagération hyperbolique. À quoi bon vivre 2000 ans sans voir le bonheur ? Tous ne vont-ils pas dans le même lieu ? Vivre 2000 ans. C'est plus que 2 fois la vie de Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Mais même là, à quoi bon si ce n'est pas pour jouir un peu du bonheur dans cette vie? On peut penser à des personnes qui passent par de longues et profondes dépressions tout au long de leur vie. Des personnes qui souffrent de douleurs persistantes sur leur lit d'hôpital, sans espoir parfois de rémission. Des personnes qui vivent dans des régions du monde où la guerre fait rage. Et la liste est loin d'être exhaustive. Il est de ces existences auxquelles le bonheur fait défaut. Il y a une privation du bonheur pour tant et tant de personnes. Et contrairement aux 5 premiers chapitres du livre de l'Ecclésiaste, la section que nous méditons ce matin, elle ne se termine pas par ce fameux refrain sur le bonheur, vous savez, qui est revenu déjà à 4 reprises dans les premiers chapitres, avec l'exhortation à profiter de ces petites choses, de ces petits bonheurs, de ces grâces que le Seigneur donne. Parce que l'Ecclésiaste veut précisément montrer ici que tous n'ont pas la même part de bonheur. Certains, sans qu'on sache pourquoi, et il n'en donne pas la réponse parce qu'il ne l'a pas lui-même, certains en sont privés. Et cela, me semble-t-il, devrait nous faire prendre encore plus conscience. Nous faire prendre encore plus conscience de la grâce que c'est d'avoir un travail. C'est une grâce que d'avoir de quoi se nourrir tous les jours. C'est une grâce d'avoir de quoi se vêtir, d'avoir de quoi se loger. C'est une grâce de vivre en bonne santé. C'est une grâce de mettre un enfant au monde. C'est une grâce de mettre un enfant au monde et que cet enfant soit lui-même en bonne santé. C'est une grâce de vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre civile ou dans un pays qui n'est pas lui-même en guerre contre d'autres pays. Et on oublie souvent cela, et j'ai dressé qu'une petite liste là, mais on pourrait l'allonger. On oublie souvent cela, et par conséquent, on pense que avoir un travail, pouvoir manger, être en bonne santé, point de suspension, eh bien, on pense que c'est la norme. On érige cela en norme, et par conséquent, on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des souffrances et des personnes qui souffrent autour de nous, ou même à l'autre bout du monde. Et on se tourne vers Dieu avec nos pourquoi, avec nos revendications. Pourquoi tant de souffrances ? Ces personnes, elles ne méritent pas de souffrir. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Cette semaine, je parlais de la bonne nouvelle de Jésus avec deux personnes catholiques. Et l'une d'elles me dit, que, voilà, une personne qui approche la soixantaine et qui me dit... J'encourage mes enfants à veiller à faire plus de bien que de mal. Parce qu'au jugement dernier, le Seigneur va regarder si on mérite d'aller au paradis ou en enfer, en fonction du bien et du mal qu'on aura fait. Et là, la personne elle dit, mais c'est bien aussi comme ça qu'on croit chez les protestants. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Alors je lui ai répondu, la Bible dit que parce qu'on a désobéi à Dieu, parce qu'on a décidé finalement de n'en faire qu'à notre tête, parce qu'on a décidé soi-même de qu'est-ce qu'allait être le bien et qu'est-ce qu'allait être le mal, eh bien, on mérite la mort. On mérite l'éternité loin de Dieu. Point final. On mérite la mort. Et j'ai insisté. Je lui ai dit, on mérite de passer l'éternité loin de Dieu. On appelle cela comme on veut, l'enfer ou quoi. Voilà. Voilà ce qu'on mérite. Alors, ça jette un peu un froid dans la conversation. Hein. Et puis, j'ai exprès laissé un moment de silence. Puis, les deux personnes avec qui je parlais, elles sentaient que j'allais dire autre chose après. Mais je leur ai dit, en fait, si on veut parler en termes de mérite, les pécheurs que nous sommes, nous méritons la mort. Nous méritons l'éternité loin de Dieu. Et donc, après un petit moment de silence, j'ajoute que, mais, parce que Dieu nous aime, il fait grâce à tous ceux et celles qui placent leur confiance en Jésus-Christ, mort sur la croix, et ressuscité. On ne mérite pas ce que Jésus a fait. On ne mérite pas que Jésus ait pris notre place sur la croix. Lui, le parfait, qui vient mourir pour nous, des pécheurs, des gens qui méritent la mort. Et lui qui vient et qui prend notre place. Et plus que cela, il nous donne sa justice, lui qui n'a jamais péché, lui qui est le juste parmi le juste des justes, le plus juste, le juste, parce qu'il a toujours été dans l'obéissance à Dieu son Père, eh bien il nous impute sa justice, il nous donne sa justice, et il prend à la croix nos fautes. Est-ce qu'on mérite ça ? On ne le mérite pas. Et on oublie souvent d'où l'on vient. Nous sommes pécheurs. Et pécheurs que nous sommes, toutes ces bonnes choses que j'ai évoquées tout à l'heure, travail, santé, subsistance, etc., ce sont des grâces que le Seigneur nous fait. Et par conséquent, ce n'est pas la norme. C'est une grâce. Et s'il y a un mot que j'aimerais dégager comme application de ces 6 premiers versets que nous avons médités, c'est le mot « reconnaissance ». Reconnaissance à Dieu pour la grâce du salut, et puis la reconnaissance à Dieu pour toutes les grâces que Dieu nous donne tout au long de l'existence. Toutes ces bonnes choses que l'on peut vivre dans la vie présente, ce sont des grâces que le Seigneur nous fait. Et par conséquent, on ne les mérite pas. Et on ne doit surtout pas les ériger en normes. N'oublions jamais cela. Et c'est avec la reconnaissance en tête que je vous invite à lire et méditer les 6 versets suivants. Donc les versets 7 à 12 de ce chapitre 6, qui ne contient que 12 versets, donc. Et qui servent en fait, les versets 7 à 12 servent de transition entre notre passage ici, la première grande section du livre, et la deuxième section. Pour mémoire, j'affiche à nouveau la structure du livre de l'Ecclésiaste. On se souvient, il y a une introduction à laquelle répond une conclusion, la thèse, au tout début du livre, tout est vanité, vanité des vanités, etc. Et cette thèse, elle est rappelée à la fin du livre. Il y a un prologue avec le poème sur les cycles de la vie, auquel répond un postlogue et le poème sur la vieillesse. La vieillesse, c'est la mort qui vient mettre un terme justement au cycle de la vie. Et entre les deux, on a finalement le corps du discours, qui lui-même est découpé en deux grandes parties. Tout d'abord, les chapitres 1 à 6, on va dire, et on voit à la fin les versets 7 à 12 du chapitre 6 qu'on va méditer maintenant, qui sont vraiment la transition vers la deuxième partie du livre, avec les conseils de sagesse que l'Ecclésiaste va nous donner. Il a déjà donné des conseils, on a déjà dégagé plein d'applications tout au long du livre, mais on va être beaucoup plus vers des conseils, vers des choses pratiques avec la deuxième partie du livre à partir de la prochaine fois. Je vous invite à lire maintenant Ecclésiaste, chapitre 6, les versets 7 à 12. Tout le labeur de l'être humain est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie ? Mieux vaut ce que l'on a sous les yeux que ce vers quoi se porte le désir. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui est a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'être humain. Il ne peut pas contester avec plus puissant que lui, car plus les paroles abondent, plus la vanité abonde. Et quel est l'avantage pour l'être humain ? Car qui sait ce qui est bon pour l'être humain dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine vie qui passe comme une ombre ? Et qui peut dire à l'être humain ce qui sera après lui sous le soleil ? Et c'est ainsi que se termine la première partie du livre, avec tout d'abord les versets 7 à 9, où l'Ecclésiaste revient sur un aspect qu'il a déjà abordé dans la première partie du livre, mais qu'il va présenter ici comme un cas typique. Il s'agit de l'insatisfaction. Dans le verset 7, tout le labeur de l'être humain est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Et c'est vrai, on travaille pour se nourrir, pour manger, pour vivre, on mange aussi et on vit pour travailler. On passe finalement sa vie à travailler, sans pouvoir profiter beaucoup de cette existence. Et en plus, notre appétit ne sera jamais satisfait une fois pour toutes. En même temps, pour les Français que nous sommes, et le temps qu'on passe à table, on aime bien aussi avoir de l'appétit et puis le satisfaire. Mais n'empêche que c'est quelque chose, voilà, c'est un cycle, c'est cyclique. 3 fois par jour, parfois 4, on va dire, voilà, on aime bien ces moments-là, mais on n'est jamais satisfait totalement. Et cela vaut pour le besoin de se nourrir, mais pour n'importe quel besoin. Notre besoin d'avoir des relations, et l'Ecclésiaste aussi, on a parlé dans la première partie du livre. Des relations qui parfois déçoivent et nous laissent insatisfaits. Notre besoin de loisirs, de vacances, mais là aussi, il n'est jamais totalement rassasié. On va partir cet été en vacances et puis il va falloir revenir et c'était bien, on était bien quand même. Bon, est-ce que c'est rassasié ? Notre besoin de bonheur en général, notre besoin d'avoir plus. Et puis, lorsqu'un besoin est assouvi, lorsqu'un désir est assouvi, eh bien voilà qu'il faut en assouvir encore un autre, et ainsi de suite. Parce que, finalement, l'être humain est un éternel insatisfait. Et l'Ecclésiaste avait posé la question de la pertinence ou non de la sagesse dans la première partie du livre. Est-ce qu'il vaut mieux être sage ou insensé ? Si la sagesse n'est pas un moyen d'échapper aux peines de la vie, mais alors à quoi elle sert ? Et il pose de nouveau la question ici, avec le verset 8. Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie ? Même une personne pauvre qui dispose à peine de quoi vivre, qui ne mange peut-être pas tous les jours à sa faim, et qui doit se débrouiller tant bien que mal pour survivre, quel profit retirerait-elle de la sagesse pour savoir comment se conduire dans cette vie-ci ? À quoi bon ? À quoi bon la sagesse ? À quoi bon ? Mais l'Ecclésiaste a montré, dans la première partie du livre, que la sagesse, elle vaut quand même bien mieux que la folie. Et la suite du livre valorisera aussi cela. Et donc, puisque la sagesse a toute sa place dans cette vie marquée par l'insatisfaction, eh bien, cette sagesse doit nous pousser au contentement, avec ce qui est dit dans le verset 9. Mieux vaut ce que l'on a... Ouh là là, ça va un peu vite là. Mieux vaut... Eh bien, décidément. Mieux vaut ce que l'on a sous les yeux que ce vers quoi se porte le désir. Il vaut mieux se contenter donc de ce que nous avons, plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas. Nous sommes invités à faire place au contentement, à apprécier ce que nous avons, malgré les insatisfactions que nous pouvons rencontrer par ailleurs. Et ce contentement, conjugué avec la reconnaissance dont on a parlé dans les versets 1 à 6, nous amène à prendre conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut apporter une réelle satisfaction. Seul Dieu peut nous satisfaire totalement. Mais en même temps, lucide qu'il est, parce qu'avec l'Ecclésiaste, on fait 2 pas en avant et puis parfois 1 pas et demi en arrière, l'Ecclésiaste sait que le contentement ne va pas supprimer toute frustration. Et il y aura toujours des sujets d'insatisfaction qui demeureront, d'où la conclusion qu'il donne au verset 9 à la fin. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ça n'empêche pas, malgré tout, l'invitation à cultiver le contentement, à cultiver la reconnaissance dont il a parlé subtilement dans les versets précédents. Mais tout en étant réaliste, ça n'est pas la panacée pour autant. C'est sa conclusion pour ce cas typique qu'est l'insatisfaction, et cela vaut pour tous les autres points qu'il a abordés dans la première partie du livre. Il aurait pu prendre n'importe lequel autre et en arriver au même constat. Avec le verset 7, le constat de l'insatisfaction. Le verset 8, est-ce que la sagesse vaut malgré tout quelque chose ? Mais oui, bien sûr, elle pousse au contentement, mais en même temps, ce n'est pas la panacée. Une déclinaison à tous les thèmes qu'il a déjà abordés. Et donc, face à la réalité de la condition humaine, que convient-il de faire ? Est-ce qu'on va tenter d'apporter des solutions nouvelles ? Mais, verset 10, ce qui est a déjà été appelé par son nom et l'on sait ce qu'est l'être humain. Une manière de dire, et l'Ecclésiaste l'a déjà formulé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de ce qui a déjà été proposé ne marchera. Qui plus est, son réalisme le pousse à dire « on sait ce qu'est l'être humain ». Nous savons ce qu'est l'être humain. Un pécheur avec ses fragilités, avec ses limites, avec parfois aussi son manque de sagesse. Et donc, que pourrait-il apporter de nouveau et de pertinent pour la condition humaine dans laquelle il est ? Alors, que tenter d'autre ? Suite du verset 10. Contester contre Dieu ? Il ne peut pas contester avec plus puissant que lui. Ici, le plus puissant que lui, c'est une allusion à Dieu. Tout est déterminé par Dieu. Et par conséquent, il est inutile de demander à Dieu des comptes de ce qu'il fait, de ce qu'il permet ou ne permet pas. Dieu n'a de compte à rendre à personne et l'on ne peut pas contester avec lui. Ça nous arrive parfois dans nos prières, dans nos pensées, dans nos échanges, de dire « mais pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, tu permets cela jusque-à quand ?» Tiens, ça fait écho à ce qu'on a entendu la semaine dernière. Quand ce n'est pas une inondation, c'est une vague de chaleur avec des feux de forêt ou encore une tempête. Pourquoi encore lui ? Ou pourquoi encore cette famille ? Pourquoi cette région qui souffre déjà tellement ? Pourquoi à nouveau cette guerre dans ce pays qui était en guerre il y a déjà 3 ans ? Et ainsi de suite. Ça fait de nouveau penser au livre de Job, où Job demande à Dieu des comptes. Pourquoi tu m'as amené à souffrir ? Pourquoi j'ai tout perdu ? Mais Dieu lui fait comprendre qu'il n'a pas de compte à lui rendre. Alors, quoi faire d'autre ? Des nouvelles solutions, ça ne marche pas. Sortir les pancartes et protester contre Dieu, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre ? Peut-être le verset 11 va nous éclairer. Blablater sur la condition humaine ? Plus les paroles abondent, plus la vanité abonde. Et quel est l'avantage pour l'être humain ? Plus on parle, plus on ressasse des paroles au sujet de la condition humaine et plus on se rend compte ce que la condition humaine a de lamentable, d'absurde, de frustrant, de décevant, de vain. Il est donc illusoire de croire que d'en parler, ça va permettre d'y échapper ou au moins, à défaut d'y échapper, d'améliorer la condition humaine. Ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. Pourtant, il faut en parler, et c'est ce que fait l'Ecclésiaste dans ce livre. Mais s'il le fait, ce n'est pas pour tenter d'en sortir. S'il le fait, c'est pour nous apprendre à assumer cette condition humaine. Et c'est ce qui ressort avec le verset 12, où l'Ecclésiaste pose 2 questions. Une première question, qui sait ce qui est bon pour l'être humain dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine vie qui passe comme une ombre ? Il veut nous faire prendre conscience qu'il nous est difficile de savoir comment agir, de savoir comment vivre dans notre quotidien, cette vie avec ses manques et ses frustrations, cette vie qui passe comme une ombre, c'est-à-dire qui est éphémère, qui est courte. Quel choix faut-il prendre ? Eh bien, il est difficile de savoir comment il convient de se comporter dans cette existence dérisoire. Et puis, 2e question, juste après, à la fin du verset 12, « Qui peut dire à l'être humain ce qui sera après lui sous le soleil ?» On pourrait traduire aussi ici « Qui peut dire à l'être humain de quoi son avenir sera fait ?» Si nous pouvions connaître demain, après-demain, ça pourrait nous aider à prendre des décisions, à bien mener notre vie, mais nous ne disposons pas de cette connaissance. L'Ecclésiaste pose des questions rhétoriques ici. L'être humain ne sait pas ce qui est bon pour lui. L'être humain ne peut pas dire de quoi demain sera fait. Et donc, Il nous faut accepter et assumer notre condition humaine et agir avec sagesse. J'ai l'impression que mon diapo, il a complètement buggé. Ou c'est ma télécommande peut-être. Voilà. Assumer la condition humaine et agir avec sagesse. C'est finalement cela qu'il nous faut retenir pour cette partie que l'Ecclésiaste aborde ici. Et d'ailleurs, la suite du livre donnera des conseils de sagesse pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle se présente à nous. Mais avant d'entamer cette partie, l'Ecclésiaste veut nous ôter nos illusions. Assumer la condition humaine, agir avec sagesse, c'est avancer à tâtons. C'est pas la garantie d'éviter des erreurs. Ce sera chaque jour après l'autre et on n'a pas la garantie de ne pas se tromper parfois. Assumer la condition humaine et agir avec sagesse, c'est aussi ne pas être devant des choix où c'est tout noir ou tout blanc. Parfois, c'est un peu entre les deux, et même souvent. Et l'Ecclésiaste le dit dans notre texte, et il le dira dès le chapitre 9, dès le chapitre 7, le suivant, il dira « mieux vaut ». Vous voyez, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est bah, parfois c'est « vaut mieux ça » à défaut de, mais c'est mieux ça quand même. Assumer la condition humaine et agir avec sagesse, c'est continuer de vivre dans un monde où le mal est présent et où nous sommes nous-mêmes encore marqués par le mal. Finalement, la reconnaissance à Dieu dont nous avons parlé dans les versets 1 à 6 et le contentement dont nous avons parlé dans les versets 7 à 9, ce sont les deux premiers signes de la vie avec sagesse que l'Ecclésiaste veut nous inviter à mener. Et cette vie avec sagesse dont il parlera dans toute la deuxième partie du livre nous mènera à Dieu, et plus particulièrement à la crainte de Dieu, au respect, à l'honneur rendu à Dieu. Dieu n'est pas mentionné dans les versets 10 à 12 ici, et même 7 à 12, qui servent de transition. Il n'empêche que Dieu est subtilement présent. Parce que Dieu est la réponse aux deux questions que l'Ecclésiaste a posées au verset 12. Dieu seul sait ce qui est bon pour l'être humain. C'est la réponse à la première question. Dieu seul peut dire de quoi demain sera fait. C'est la réponse à la deuxième question. Alors l'Ecclésiaste nous invite ici à placer notre confiance en Dieu. En renouvelant notre confiance en lui, si jamais nous avons déjà fait ce pas de foi, et à le faire dans la reconnaissance pour qui il est et pour ce qu'il nous donne dans notre vie, et aussi avec le contentement des versets 7 à 9. Je vous invite à un temps de silence pour faire résonner l'une ou l'autre des choses qu'on a entendues ce matin, et ensuite nous chanterons le chant « Merci Seigneur ».